France Culture. Avoir raison avec Marie Curie, Alexandre Morales.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, avoir raison avec Marie Curie, cinquième et dernier épisode, déconstruire un monument national. Marie Curie a consacré sa vie aux sciences. Deux fois prix Nobel, pionnière de la radioactivité, figure d'une recherche désintéressée et exigeante, son nom aujourd'hui est devenu synonyme d'excellence. Et après des années passées à manipuler des substances radioactives, Marie Curie finit par tomber malade. Elle meurt le 4 juillet 1934 à Passy, victime d'une anémie dont on peine à affirmer qu'elle a été causée par les rayonnements. Alors, après avoir exploré tout au long de cette série les motivations profondes et les apports scientifiques de Marie Curie, il est temps de se poser la question de sa postérité symbolique. Cet épisode est donc une invitation à déconstruire le mythe de Marie Curie, non pas pour lui faire du tort, mais pour lui rendre hommage. Comment, dès son vivant, a-t-on fait de Marie Curie une figure et de quelle manière, après sa mort, l'avons-nous érigée en monument national ?
Le mythe de Marie Curie, chaque fois, ça m'est arrivé à une époque, je faisais quand même pas mal de conférences, y compris sur Pierre et Marie Curie, y compris sur Marie Curie, donc Pierre et Marie Curie, en fait, toujours, eh bien, je dirais, comme mon propos était toujours de resituer la contribution scientifique personnelle dans un contexte où les choses avancent, etc. Et j'avoue que ça a été un peu un combat permanent, pas mené que par moi, hein, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui ont quand même essayé de placer les choses à l'endroit où elles doivent être. Et d'ailleurs, il faut faire attention que, à la limite, la stature de Marie Curie n'aboutisse pas, notamment pour des jeunes femmes, à l'idée « Ah oui, mais c'est un cas particulier, tellement différent des autres, je ne pourrais jamais faire ça. » C'est un risque. Plus le mythe, j'allais dire, est monté en épingle, et plus c'est quelque chose qui risque d'arriver. Quelque chose qui fait une barrière par rapport à l'intérêt des sciences. Prendre Marie Curie comme modèle, eh bien, je ne suis pas si sûr que beaucoup de jeunes filles le fassent. Ce que je veux dire, c'est dans le portrait de Marie. Évidemment, je me suis construit un progrès de Marie en connaissant son œuvre scientifique, évidemment. Et je me suis construit un progrès de Marie en entendant parler de Marie par mes parents, hein, par mon père. Et par ma mère.
Nathalie Pijarmico, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de retour pour ce dernier épisode d'Avoir raison avec Marie Curie, je vous en remercie. Je rappelle que vous êtes historienne, directrice adjointe au musée Curie et autrice du livre Les femmes du laboratoire de Marie Curie aux éditions Glyph, qui est en passe d'être réédité et augmenté. Alors, tout au long de cette semaine, nous avons entamé ces épisodes par quelques mots de la petite fille de Pierre et Marie Curie, Hélène Langevin-Joliot. Et je pense que vous êtes plutôt d'accord avec elle. Selon vous, le mythe de Marie Curie, c'est une postérité qui écrase en fait les autres figures, à commencer peut-être par celle de Pierre Curie.
Oui, il est évident, même d'un point de vue, on va dire, numérique, bête et méchant, après la panthéonisation en 95, hein, on a 3 biographies sur Pierre Curie, on en a plus d'une centaine sans Marie Curie. Donc, effectivement, la figure de Marie Curie écrase, on le voit, la figure de Pierre, mais quelque part, c'est même pire, c'est que, en fait, on ne peut pas comprendre la découverte de la radioactivité, du polonium et du radium sans se référer à leurs travaux communs. Et si on parle que de Marie, on ne peut pas comprendre cette découverte, tout simplement.
Et ce qui est curieux, c'est que c'est vraiment un renversement de la sentence historique qui est normalement appliquée aux femmes. On invisibilise généralement le travail des femmes. Ici, c'est complètement l'inverse.
Oui, mais il faut dire aussi que en 95, quand Marie Curie est entrée au Panthéon, Mitterrand explique bien la chose. Il veut que ce soit elle qui rentre dans le sanctuaire de la mémoire collective en tant que femme et en tant qu'étrangère. À un moment où on a une montée de la xénophobie ambiante, Mitterrand choisit une Polonaise pour montrer justement l'apport de l'étranger à la grandeur française et une femme pour montrer que la moitié de la population sert aussi à la France. Mais faut se rendre compte que l'enseignement de l'histoire en France se base toujours sur quelques figures, ignorant toutes les autres. Et ces quelques figures deviennent, alors je parle, je sais pas moi, de Jeanne d'Arc, de Napoléon, de Pasteur, de Berthelot. Ces figures deviennent quasi mythiques.
Elle participe de la construction d'un roman national, en fait.
C'est une volonté, à mon avis, politique de construire ce roman national que d'entrer une figure, un nom, on va dire, dans les manuels scolaires et dans l'histoire, et de recréer toute cette histoire de ce nom pour qu'il corresponde à l'image que la nation veut, que le collectif en ait.
Alors cette construction d'une figure mythique et exceptionnelle autour de Marie Curie, elle s'est faite progressivement et tout commence probablement par le prix Nobel en 1903 attribué à Henri Becquerel et à Pierre et Marie Curie. Les journaux en parlent et ça fait sortir le couple Curie de l'anonymat d'une certaine manière. Alors Nathalie Pijarmico, le premier prix Nobel, donc il est attribué en 1901, donc c'est la troisième édition du prix Nobel ici. Est-ce que c'était déjà un événement dans la presse ou est-ce que la présence d'une femme, ça en fait quelque chose un peu différent?
Je ne suis pas sûre que ce soit la présence d'une femme qui est
d'une
vraiment marquée.
Française, en plus.
D'une femme française.
Un couple français.
C'est plutôt effectivement la présence de lauréats français qui a marqué la presse. Et c'est vrai que de découvrir qu'en plus, dans ces lauréats, il y avait un couple, c'est assez étonnant de voir la presse de l'époque justement parler beaucoup du couple Curie et pas trop de l'un ou de l'autre. Souvent, effectivement, Marie Curie est présentée comme la digne assistante, la collaboratrice, mais on lui reconnaît aussi son savoir scientifique. C'est vraiment le fait que ce soit un prix qui a été attribué à trois Français, en fait, qui marque les journaux. Et qui vont faire que Pierre et Marie Curie, Marie et Pierre Curie plutôt, ont été vraiment connus dans la presse, diffusés dans la presse à cette occasion. Avant, et même après, dans la presse féminine et dans la presse féministe, Marie Curie est toujours présentée parmi plein d'autres femmes, plein d'autres pionnières. Ouais. Mais là, elle est présentée avec son mari.
D'accord. Et alors justement, son mari, il meurt en 1906. Pierre décède en 1906. Et pour revenir à lui, à son invisibilisation, j'ai le sentiment que si Marie éclipse tant son époux, c'est probablement parce qu'il est mort jeune. Lui qui était déjà, qui était plus âgé, qui était déjà un grand savant. Est-ce qu'après donc la mort de Pierre, il y a une focalisation, puisque Marie Curie récupère son poste, est-ce qu'il y a une focalisation de l'aura peut-être de Pierre vers la figure de Marie, ou est-ce que elle se met à exister par elle-même?
Non, elle se met tout de suite à exister par elle-même, hein, même si elle continue le cours de Pierre Curie exactement là où il en était. Il est vrai que le décès de Pierre a fait d'elle la première femme directrice d'un laboratoire de recherche universitaire et a fait d'elle la première femme professeure des universités. Sans la mort de Pierre, elle n'aurait pas eu cette chaire. Mais comme elle le dit dans son journal intime, Marie Curie, elle écrit à la suite du premier cours, il y a des imbéciles qui sont venus me féliciter. Elle, ce n'est pas le fait qu'elle soit en chaire à la Sorbonne qu'elle retient. C'est d'abord la mort de Pierre. Et en fait, une fois qu'elle est devenue professeure à la Sorbonne en 8, hein, 1908, on la voit plus trop dans la presse. Hein, entre la mort de Pierre et donc sa candidature à l'Académie des sciences en novembre 10, on la voit plus beaucoup dans la presse.
Et comment est accueillie son arrivée en tant que professeure?
C'est ça qui est assez étonnant, c'est que partout il est écrit qu'il y avait plein de journalistes, plein de monde, mais nous n'avons qu'une gravure publiée dans l'illustration pour représenter ce premier cours. Donc il a dû y avoir des photos. Apparemment, c'est un cours qui a fait un grand bruit. Les gens se sont massés pour y aller. Mais elle avait fait venir ses élèves de Sèvres, de l'École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres. Elle leur avait réservé des places. Mais une fois le cours passé,
on n'en entend plus parler.
On n'en entend plus parler, pratiquement plus.
Mais elle est relativement bien accueillie, Marie Curie. Enfin, il n'y a pas d'hostilité patente contre elle.
Non.
Au moment de, en tout cas, de la part des universitaires.
Non, non, parce qu'en fait, ce que j'explique souvent, c'est que comme c'est la première, elle est rare. Et c'est vrai que les femmes scientifiques, même s'il y en avait beaucoup d'autres, elles étaient quand même rares par rapport au nombre d'hommes. Et donc, on pouvait les considérer comme des exceptions. L'université, à la mort de Pierre, a immédiatement cherché à ce que ce soit Marie Curie qui reprenne le poste de Pierre. Parce qu'il connaissait, la faculté des sciences connaissait la valeur scientifique de Marie Curie. Ça ne leur posait aucun souci qu'elle soit femme. Marie Curie est arrivée à un moment de l'histoire où on a besoin de gens qualifiés sur le marché du travail, avec l'explosion de la chimie de synthèse, colorants, médicaments, des industries électriques. On a besoin de gens qualifiés. La France n'a pas développé son instruction. Elle est très tardivement. Et elle n'a pas développé vraiment. Donc, à ce moment-là, l'immigré et la femme sont les bienvenus. Et Marie Curie est les deux. Elle n'a eu aucun mal à trouver un laboratoire. Ça ne sera pas le cas des femmes plus tard.
Notamment d'Irène. Alors, malgré cette atmosphère qui est quand même plutôt favorable, il y a quand même un moment de son vivant où Marie Curie est ramenée assez violemment à sa position de femme. C'est le moment de l'exposition publique de sa liaison avec Paul Langevin dans la presse, principalement la presse d'extrême droite. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur cette affaire, Nathalie Pijarmico, et aussi sur toute l'année 1911, qui est une année extrêmement riche?
Oui, l'année 1911 a été très perturbante pour Marie Curie, si bien que toute l'année 1912, elle était malade d'ailleurs. Elle est retournée à son laboratoire qu'en octobre 1912. Cette année 1911 a en fait commencé en novembre 1910, quand des amis de Marie Curie l'incitent à candidater à l'Académie des sciences, puisque le fauteuil de Pierre Curie, qui avait été occupé par un autre, est redevenu libre. Et Marie Curie accepte de candidater à l'Académie des sciences parce que c'est le fauteuil de Pierre Curie. Immédiatement, la presse s'empare de l'événement, une femme candidate à l'Académie des sciences. Et Marie Curie, elle qui publie, qui se prononce publiquement très très rarement, se targue là d'un article dans la presse pour dire... D'habitude, quand il y a un homme qui est candidat, on n'en entend pas parler. Donc j'aimerais bien que ma candidature reçoive le même traitement que celle des hommes et qu'on, en gros, qu'on me fiche la paix. Et le seul souci, c'est que l'Académie des sciences est une des 5 académies de l'Institut de France. Et l'Institut de France voit d'un très mauvais œil que l'Académie des sciences se permette de présenter une femme qui pourrait être élue. Et donc, qui par la suite pourrait faire partie de l'Institut de France. Alors, l'Institut de France se réunit et demande à l'Académie des sciences de rejeter la candidature de Marie Curie. En janvier 1911, là ça commence, la vraie guerre, l'Académie des sciences décide qu'au nom de son indépendance et de sa liberté de choix de ses candidats, propose Marie Curie en première ligne, c'est-à-dire en premier choix.
Donc là, c'est vraiment une bataille institutionnelle.
C'est une bataille institutionnelle. Et la presse d'extrême droite va s'emparer de cette candidature pour titrer Branly contre Dreyfus. Parce que effectivement, il y a un autre candidat à l'Académie des sciences qui a claqué la porte de l'université au nom de sa croyance au catholicisme, qui a travaillé à l'Institut catholique, qui est un très grand savant, Édouard Branly, qui a déjà postulé 3 ou 4 fois à l'Académie des sciences sans être reçu. Donc la presse d'extrême droite préfère ce candidat-là, bon catholique, qu'une femme qui en plus vient de l'étrangère.
Elle rejoue l'affaire Dreyfus en fait.
Elle rejoue l'affaire Dreyfus parce que en fait, rappelons que c'est en 1906 que Dreyfus a été réhabilité. Donc c'est il y a très peu de temps. À partir du moment de la réhabilitation de Dreyfus, les groupuscules d'extrême droite se créent mais se diffusent.
Donc il faut les réunir.
Et il faut les réunir justement
contre un ennemi commun.
Contre un ennemi commun. Et Maria Salomea Skłodowska, autrement dit Marie Curie, elle correspond à tout ce que l'extrême droite déteste, et en plus, elle serait juive, puisqu'elle s'appelle Saloméa.
Et en parallèle de ça, il y a cette affaire avec Langevin, qui aussi fait beaucoup de bruit.
Voilà, alors juste après, justement, qu'on ait titré Branly contre Dreyfus, qu'on ait associé Marie Curie à Dreyfus, la presse s'empare de l'affaire d'amour qu'il y a entre Paul Langevin et Marie Curie. Et là, donc c'est toujours cette étrangère supposée juive, puisqu'elle est confession catholique, mais là on lui attribue la confession juive, qui va voler à une femme catholique française son mari, alors qu'il est père, voilà.
France Culture, avoir raison avec Marie Curie, Alexandre Morales.
Dans l'avant et l'immédiate après-guerre, Marie Curie est une femme reconnue pour son travail scientifique et pour sa participation à l'effort de guerre, mais elle est encore loin d'avoir l'aura monumentale dont elle bénéficiera par la suite. Pourtant, dès 1921, on commence à réécrire son histoire puisqu'elle part aux États-Unis pour récupérer 1 gramme de radium et la journaliste Marie Meloni mène une véritable action de propagande dans les médias américains pourquoi justement ce besoin de vendre l'image de Marie, Nathalie Pijarmico. Comment est-elle dépeinte ?
En fait, lorsque Marie Meloni arrive en France pour interviewer Marie Curie au laboratoire, nous sommes en 1920. La France est en pleine reconstruction. Même si Marie Curie est un des laboratoires les mieux dotés de France, le prix du radium est tel à l'époque, d'après le convertisseur INSEE, ça serait 1 800 000 euros aujourd'hui. Donc, 1 gramme de radium. Est telle que Marie Curie n'a pas assez de radium pour approfondir ses recherches. Et donc Marie Meloni se propose de faire une collecte aux États-Unis pour récolter assez d'argent pour offrir à Marie Curie ce gramme de radium. Mais pour collecter de l'argent, il faut justifier le besoin de d'argent. Et donc on va recréer toute l'histoire de Marie Curie et notamment la placer dans la pauvreté de l'enfance, mais aussi dans la pauvreté de la recherche française actuelle de 1921, pour justifier le fait qu'on a besoin d'argent pour lui offrir 1 gramme de radium. Et c'est vrai que sur les 19 848 articles que l'on a, qui couvrent les 2 mois du voyage de Marie Curie aux États-Unis, il écrit tout et n'importe quoi, même une photo de Marie et d'Irène, ou ce qui est titré « Marie et son fils Pierre ». Mais surtout, bah, Marie Curie, elle est née de parents pauvres, et c'est en combattant que, grâce à son génie, elle est arrivée au sommet et qu'elle va sauver la terre entière de cette maladie, le cancer, grâce au radium qu'on va acheter pour elle.
Et ça, c'est une image qu'on retrouve par la suite, même dans la biographie que fait Ève Curie, sa fille, après sa mort.
La biographie de Ève Curie après sa mort n'insiste pas trop sur cette pauvreté, cette recondition. Elle reste assez vague, mais elle utilise tout un vocabulaire empathique avec les mots de sacrifice, de dévouement, de pauvreté, de petit, petite. Je crois que le mot petit, il revient à 248 fois.
Petite Madame Curie.
Voilà. Pour créer une empathie envers le personnage. Puis Ève, elle le dit dans son introduction, hein. Elle était femme, elle était pauvre, et quand elle mourut, en ayant refusé tous les honneurs et toutes les richesses, alors qu'elle a quand même accepté une pension nationale de 43 000 francs par an, à condition qu'elle soit donnée à ses enfants. Voilà, c'est une reconstruction.
C'est ça, et en plus de ça, Marie Curie, c'est une femme qui a quand même reçu de l'aide, notamment de Lippmann, son mentor, qui lui trouve une bourse pour qu'elle reste à l'université, de la part de Pierre Curie, qui insiste pour qu'elle reçoive également le prix Nobel, parce qu'elle n'était pas lauréate à l'origine. Il dit que c'est elle qui a eu le courage d'entreprendre la recherche chimique des éléments nouveaux, elle a fait tous les fractionnements nécessaires pour la séparation du radium et déterminer le poids atomique de ce métal. Il me semble que si nous n'étions pas considérés comme solidaires dans le cas actuel, ce serait déclaré en quelque sorte qu'elle a seulement rempli le rôle de préparateur, ce qui serait inexact. Pierre se mouille vraiment pour Marie Curie.
Ah oui, mais Pierre est dans ses attitudes, dans ses dires, et à part son petit texte sur sa jeunesse, où il dit que les femmes, c'est juste fait pour perturber l'esprit masculin, en fait, Pierre a une attitude vraiment de féministe par rapport à Marie Curie. On ne saura jamais si Marie Curie était au courant de son combat pour qu'elle soit aussi lauréate du prix Nobel au même titre que lui. L'histoire, effectivement, a vraiment retenu que Marie Curie, parce que il y avait besoin d'une femme à faire rentrer dans la mémoire collective, pas une politique de préférence, donc une scientifique, ça permet de ne pas aussi provoquer une polémique politique. Mais il faut se rendre compte que ce n'est qu'à partir de son entrée au Panthéon que Marie Curie a eu le droit de citer dans les manuels scolaires.
Quand au Panthéon, la première femme de notre histoire, honorée pour ses propres mérites. Madame, à quelques pas d'ici, dans cette rue qui porte désormais le nom de vos parents, s'élèvent les deux pavillons de l'Institut du Radium où s'acheva le destin de votre mère. Dans le modeste jardin qui les sépare, elle y planta un rosier qui continue de porter ses fleurs. Dès l'enfance, Marie Sadowska résiste contre les humiliations du pouvoir étranger, contre sa nature difficile qu'il faut vaincre, comme elle le dit elle-même, contre les fatalités de la condition de la femme, contre les dogmes de toutes sortes qui prétendent l'enserrer. Elle veut gouverner sa vie et se faire un destin. Elle a pour cela les qualités qu'il faut. C'était donc une jeune fille patriote polonaise.
On vient d'écouter un extrait du discours du président Mitterrand à l'occasion de la panthéonisation de Pierre et Marie Curie en 1995. J'ai choisi cet extrait parce que il montre bien cette idée de femme qui s'est toujours battue et qui persiste au fil des années jusqu'à arriver au discours de Mitterrand qui est vraiment dans l'exagération presque de cette facette-là de Marie Curie.
Oui, alors faut quand même retenir à la fin de son discours, quand elle dit cette femme polonaise, patriote polonaise, que justement, Marie Curie, si elle n'était pas née Maria Skłodowska, elle n'aurait pas pu devenir la grande scientifique qu'elle est devenue. Pourquoi ? Parce que en France, il n'existait pas d'enseignement secondaire pour les jeunes filles, même si l'université leur était ouverte. Et quand il existera cet enseignement secondaire, de toute façon, il permettra pas l'entrée à l'université, il faudra passer le bac. Or, dans les pays de l'Est, et notamment la Pologne, il existe un enseignement secondaire public d'une telle qualité que le diplôme de fin du public leur permet d'avoir l'équivalent du baccalauréat et d'entrer à l'université. Et c'est pourquoi les Polonaises et les Russes ont investi les universités françaises en masse. Et c'est grâce à ces étrangères qu'il y a une évolution culturelle des mentalités quant à l'acceptation des femmes dans les universités. Donc, même si elles n'étaient pas forcément militantes féministes, c'est par leur existence même et par leur façon de mener leur vie qu'elles peuvent servir de modèle au féminisme. Et Marie Curie, c'est vraiment ça.
Bah vous évoquez le féminisme, et effectivement, là, on retrouve vraiment cette idée d'une femme qui se serait battue contre les fatalités de la position de la femme. Or, en vérité, c'est ce que vous venez de dire, Marie Curie n'est pas féministe. Elle a pas vécu vraiment les enjeux du féminisme. Et il faudrait qu'elle soit formée par Ayrton en 1912.
Oui, Marie Curie est née dans un milieu où l'enseignement est le même pour les garçons que pour les filles. Elle est née dans un milieu bourgeois très aisé culturellement. Hein. Son père est traducteur autant de Dickens que rédacteur d'articles de botanique, de biologie, etc. Elle est née dans ce milieu-là et pour elle, c'était normal de mener sa vie comme elle l'entendait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle prouve quand elle arrive à Paris. Elle va d'abord vivre chez sa sœur, dont le mari est médecin. Sa sœur n'est pas encore médecin, mais le salaire de son mari suffit. Mais elle a envie de son indépendance, d'être libre. Donc elle va se prendre une chambre de bonne à côté de la fac pour justement connaître cette liberté, cette indépendance. Et toute la vie de Marie Curie, c'est ça en fait. Elle ne milite pas. Elle est dans un milieu où on l'accepte comme elle est. Comme je l'ai dit, on a besoin de ces gens-là sur le marché du travail. Ça sera pas du tout pareil après la crise économique de 30. Mais là, Marie Curie, si elle peut servir le féminisme, c'est par son choix de vie.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne figure féministe aujourd'hui, Marie Curie ?
Non, pas du tout. Elle n'était pas féministe, Marie Curie. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que au début, elle ne comprend pas justement les manifestations des suffragettes quand elle arrive chez Hertha Ayrton, qui est sa grande amie physicienne, qui a créé un arc électrique. Hertha Ayrton a sa fille Barbara qui est alors en prison pour manifestation suffragette. Marie Curie ne comprend pas cette attitude. Et c'est vraiment Hertha Ayrton qui va lui parler de cette conquête des droits de la femme à elle et à Irène. Elle va être très importante pour la formation d'Irène, puisque Irène, elle, prendra la parole systématiquement pour défendre ses valeurs, notamment son féminisme militantiste. Alors que Marie Curie prendra la parole pour les féministes que deux fois. Une fois en 21, où Hertha Ayrton lui demande d'utiliser son nom pour une pétition pour faire libérer des suffragettes et surtout pour améliorer les conditions de détention des suffragettes. Où Marie Curie lui dit « J'ai confiance en vous, je vous autorise à utiliser mon nom ». Et une deuxième fois, c'est en 32, quand un sénateur va dire « Mais même les grandes femmes comme Madame de Noailles ou Marie Curie ne réclament pas le droit de vote ». Et là, elle va publier dans la presse un démenti en disant « J'ai, il est vrai, l'habitude de m'abstenir en ce qui concerne toute discussion publique aussi bien sur cette question que sur d'autres qui ne sont pas du domaine scientifique. Cependant, sans me prononcer sur les modalités de l'attribution des droits politiques aux femmes, je pense que le principe est essentiellement juste et qu'il devra être reconnu. » Marie Curie est une militante en science pour faire reconnaître son travail scientifique. C'est pas une militante féministe.
Et ben voilà qui clôture notre série « Avoir raison avec Marie Curie ». Merci beaucoup Nathalie Pijard-Micaud pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes historienne et autrice du livre « Les femmes du laboratoire de Marie Curie » aux éditions Glyph. Un immense merci à Vanessa Nadjar pour la réalisation de cette série et à la technique aujourd'hui, François Saint-Jour.